Je maudis tout ce temps qui passe et qui jamais ne reviendra, car il m'a tant privé de toi. Que l'on dise ou bien que l'on fasse, je maudis le temps qui s'en va, car il m'a séparé de toi. Que l'on dise ou bien que l'on fasse, je maudis le temps qui s'en va, car il m'a séparé de toi.
C'était Jean-Yves Salmon, dernier titre de la programmation. On va se quitter avec les Rooters, un groupe surf. Let's go! Voilà, eh bien, tout simplement pour vous remercier de votre fidélité, remercier de vos coups de fil, ils ont été nombreux, et vous dire que, eh bien, pour samedi souvenir, on se retrouvera avec le plus grand plaisir samedi prochain. Et n'oubliez pas, je vous retrouve avec la Miss Chantal demain matin, dès 9h jusqu'à midi pour une heure d'accordéon et 2 heures de chansons françaises pour les dédicaces. Dimanche bonheur, salut et à demain.
Question d'histoire économique et sociale. Tous les types d'archives croisées l'établissent formellement. On ne fait pas beaucoup d'idéologie quand on fait de l'histoire sérieusement. On fait de l'histoire de classe, l'histoire des rapports sociaux. Elle est au cœur de ce que j'appelle une pratique scientifique radicale. Ça consiste à aller chercher les choses par la racine.
L'histoire, ça ne se fait pas avec des opinions, mais avec des sources qui établissent des faits, et les faits sont les faits, et en plus, ils sont têtus. Salut, c'est JBD, c'est La Voix Off. Toujours avec l'historienne et chercheuse Annie Lacroix-Riss, professeure émérite à l'Université Paris 7, pour ce nouvel épisode de notre saga autour du Congrès de Tours et de l'histoire du Parti communiste français. Aux précédents épisodes, on a évoqué la réalité de la résistance française pendant l'occupation, c'est-à-dire de l'action militaire des communistes qui sont depuis l'été 41 quasiment les seuls à résister activement. Sans les Rouges, De Gaulle n'est rien. On a aussi évoqué la lourde responsabilité de tous les partis politiques, y compris de la SFIO, PS de l'époque, dans le basculement de la France dans la dictature dès 1938. Comme les autres partis, sur le front de la résistance, la SFIO mène une lutte tardive, mais surtout depuis 1943, quand avec l'héroïque combat de l'URSS, on commence à comprendre que l'Allemagne pourrait perdre la partie. Communistes mis à part, tout le monde attend qu'on retourne au status quo d'avant-guerre une fois que les Américains auront libéré le pays. Certains continuent aussi à collaborer avec Vichy et les nazis, tout en préparant l'avenir américain en se fabriquant des légendes de résistants qu'ils n'ont jamais été. C'est ce que depuis 20 ou 30 ans on appelle la vichisto-résistance. Ces gens qui étaient collabos le jour, mais qui, paraît-il, résistaient la nuit. La vichisto-résistance est une légende récemment forgée, pour ne pas dire un mythe errant. On va d'ailleurs aujourd'hui se pencher sur le cas d'un homme devenu chef du Parti Socialiste en 1971, mais qui en 1943 est décoré de la Francisque par Pétain lui-même.
L'histoire de Mitterrand, c'est pas l'histoire d'un homme de gauche qui aurait un peu fauté, collaborait le jour, mais faisait de la résistance la nuit. Qu'on soit sérieux, hein. Mitterrand a été mis à la tête d'un parti classé à gauche, mais Mitterrand est un homme d'extrême droite. L'histoire de Mitterrand, c'est l'histoire d'un homme d'extrême droite qui passe à la gauche en même temps que son financier.
Vichisto-résistance. Résistants, collabos, certains sont durs à classer. Où pourrait-on par exemple ranger cet héroïque préfet du Loir-et-Cher qui résiste dès 1940 et meurt en déportation? Mais ce préfet résistant la nuit était de jour un petit papon qui appliquait notamment les directives anti-juives. Mais chut, sujet tabou, et pas seulement en Loir-et-Cher.
Plus de 100 hauts fonctionnaires, préfets régionaux, préfets départementaux.
1942.
En grande tenue.
Radio Paris.
Se sont réunis dans le grand salon de l'hôtel de ville où tout à l'heure le maréchal prendra place pour recueillir leur serment individuel de fidélité.
Tous les ministres et hauts fonctionnaires devront me prêter serment de fidélité et s'engager à exercer les devoirs de leur charge pour le bien de l'État selon les lois de l'honneur et de la probité.
La majorité des fonctionnaires de l'ex-République prête allégeance au maréchal Pétain. Après les sombres heures de l'occupation, on va aujourd'hui explorer des aspects peu connus de la libération, la non-épuration et le status quo. Car après s'être servi de la résistance communiste pour exister, De Gaulle garantit aux Américains et à la grande bourgeoisie française que la France ne sera ni dénazifiée, ni épurée de ses traîtres et de ses collabos. Que l'ennemi de tous reste le communiste. C'est l'un des thèmes de votre ouvrage « La non-épuration en France de 1943 à 1950 » Annie Lacroix-Risse. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Avant notre exploration de nauséabondes coulisses de la non-épuration, petit moment d'euphorie avec la fleur de Paris d'une libération au sujet de laquelle on raconte aussi bien des sornettes, comme on le verra après la chanson.
Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir.
Le percepteur l'a conservé dans son tiroir.
La fleur si belle, le
Le pharmacien la dorlotait dans un bocal.
L'ex-caporal en parlait à l'ex-général.
Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit. Car c'est la fleur du retour.
Ses couleurs
bleu, blanc, rouge.
Avec l'espoir elle a fleuri.
C'est une fleur de Paris. C'est une fleur de chez nous. Elle a fleuri de partout.
Car c'est la fleur du retour, du retour des beaux jours.
Pendant 4 ans dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs.
Jacques Ellian et son orchestre, Fleur de Paris, hymne d'une libération au sujet de laquelle on nous raconte beaucoup d'âneries. On pleure avec raison sur le sort des femmes tondues, émotion bien pratique pour en fumer le souvenir des aberrations de la libération. On s'émeut beaucoup de milliers d'exécutions sauvages et erratiques de l'été 44. Mais même s'il y a eu des bavures, ces exécutions de collabos n'ont pas toutes été aussi arbitraires que ça. Nombre de ceux qui ont été passés par les armes à la libération avaient, pour la plupart, effectivement été d'authentiques collabos, mais souvent des clampins. Les gros collabos sont, eux, restés en place et en poste, et parfois même avec un statut de héros, et notamment les flics et les magistrats au service de la grande bourgeoisie. Avec le dénigrement de la résistance, il est aussi à la mode chez les historiens médiatiques d'aujourd'hui de réhabiliter le régime de Vichy, de nous resservir la fable du glaive et du bouclier. Pendant que De Gaulle luttait, le brave Pétain sauvait les meubles. Vichisto résistance, comme on dit aujourd'hui. Une légende qui démarre dès l'été 45 avec le sabotage du procès Pétain. Pétain devait initialement être jugé pour haute trahison. Mais de haute trahison, le chef d'inculpation va passer à simple collaboration. L'étonnant concept de vichisto-résistance, récemment popularisé par le médiatique Jean-Pierre Azéma, prof à Sciences Po, qui a quand même été conseiller historique de l'excellent feuilleton Un village français, Annie Lacroix-Risse.
Jean-Pierre Azéma, il est tout à fait caractéristique de l'historiographie de Sciences Po. Travailler sur les sources, travailler sur les hypothèses difficiles, est impossible à Sciences Po si on veut y faire carrière. Et Jean-Pierre Azéma, qui y a fait carrière, qui s'est illustré notamment par un des très graves manquements de l'historiographie française, Azéma prend l'habitude, évidemment, dans les années 90, d'être beaucoup sollicité, puisque Sciences Po a été très sollicité pour ce que j'appelle les enquêtes bidons. Ayant pris l'habitude de s'occuper beaucoup, comme c'est la mode à Sciences Po, de deuxième main, ou de textes postérieurs aux faits, ou de textes officiels contemporains des faits, confrontés aux archives, je peux vous dire que ça n'est pas la même chanson. Hein ? Azéma sort toute une série de problématiques. Quand on ne veut pas aborder les faits, créer des nouvelles problématiques, c'est indispensable. Et on est fin des années 90 où chemine la droitisation de l'historiographie française. D'ailleurs, je ne veux pas dire seulement que c'est pas bien, ils sont de droite parce qu'il faudrait être de gauche, pas du tout. Mais ça conduit à une régression scientifique parce que une des manifestations de cette droitisation, qui n'est autre au fond que le respect religieux envers les élites. Une de ces manifestations, c'est la réhabilitation de Vichy, qui a couru à Sciences Po, sur deux secteurs notamment. D'une part, il n'existait pas de fascisme français, et d'autre part, fallait quand même être nuancé sur Vichy, tout ça. Il y avait un Vichy pratiquement honorable, bon, qui avait été gâté par des infléchissements en 1942 à cause de Laval. Mais finalement, il y avait des gens honnêtes à Vichy. Et n'importe qui connaît un peu l'historiographie française depuis 30 ans est frappé par ce qui est de fait une réhabilitation de Vichy. Et une des réhabilitations extraordinaires de Vichy à partir des années 90, c'est d'expliquer que il faut qu'on reprenne la problématique du procès de Pétain.
Pétain est-il coupable ? Oui, Pétain est coupable. Oui, Pétain mérite la mort.
Le procès Pétain démarre en 45.
Il est accusé de complot contre la République, atteinte à la sûreté de l'État, intelligence avec l'ennemi et haute trahison.
Pétain est jugé par des magistrats qui lui avaient prêté allégeance sous Vichy.
Quand on regarde le procès de Pétain, Pétain a eu à 98% des témoins à décharge, tous vichistes, tous participant au complot contre la République, tous ayant participé à la liquidation de notre défense nationale, tous ceux que dénonçait Marc Bloch entre 1940 et 1944 comme les responsables de la déroute de la France. Le procès Pétain, c'est un procès qui anticipe sur toute l'historiographie la plus réactionnaire, celle qui triomphe chez nous depuis 30 ans, c'est-à-dire dithyrambe à l'égard de Pétain. C'est ce qui répond à la thèse du bouclier.
La fable du glaive et du bouclier. Secrètement, main dans la main avec De Gaulle, le maréchal faisait le bouclier, pendant que le général était le glaive. Et les nazis, qui étaient parfois un petit peu naïfs, n'y ont vu que du feu. Mais revenons-en au chef d'inculpation initial du procès Pétain.
C'est un texte qui prévoit la poursuite des ministres de Vichy, du chef d'inculpation, du crime d'intelligence avec l'ennemi ou d'atteinte à la sécurité extérieure et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, c'est-à-dire de haute trahison. La haute trahison est punie de la peine de mort conformément aux articles 75 et suivants du Code pénal. Or, l'enquête sur Pétain Et l'enquête sur les ministres de Vichy, c'est pas une enquête sur la collaboration, c'est une enquête sur cette trahison qui est aussi une enquête sur la synarchie qui n'existe pas. Ceux qui doutent iront regarder les attendus du juge Zussmann qui ne porte que là-dessus. Lui aussi, d'ailleurs, il deviendra raisonnable. Hein. Un juge, en 1944, soit il pense qu'il faut mener sérieusement les enquêtes ou exploiter des enquêtes bien faites, et de toute façon, il aura une carrière pourrie. Et il y a ceux qui pensent le contraire et qui auront une carrière remarquable. On a trouvé un magistrat, Paul Didier, dont la carrière n'est pas extraordinaire, qui est quand même notre magistrat le plus vertueux de l'histoire de la France au XXe siècle, Paul Didier, qui non seulement a refusé de prêter le serment à Pétain, mais en plus qui a été un vrai résistant. Bon, il y a quelques honneurs, enfin, qui a fait une carrière somme toute médiocre. Hein. Bon, donc, Pétain est poursuivi pour trahison. J'ai même produit les sidérants entretiens entre d'une part Pétain et d'autre part le grand juge Pierre Béteille. Pétain arrive à Paris, il est interrogé donc dans plusieurs auditions par Béteille. Béteille est le juge qui a été chargé de toutes les enquêtes sur la cagoule, pour ce regroupement des ligues fascistes entre 36 et 39. Il sait tout des ligues fascistes. C'est un juge qui accepte la prescription de Daladier qu'il faut laisser tomber. En juillet 39, une décision de justice qui laisse tomber l'affaire de la cagoule au prétexte que on a des urgences de guerre et que ces braves gens vont devenir des patriotes qui aideront à la bonne tenue de la guerre. J'ai apporté les preuves policières et judiciaires de ce que j'avance. C'est le même Béteille qui est chargé d'un certain nombre des dossiers stratégiques, et notamment d'ailleurs celui de Pétain. Mais Béteille, il peut faire ce qu'il a fait en 39. C'est ce qu'il fera d'ailleurs. J'ai montré comment au départ, début 45, on peut penser que vraiment il va mener l'enquête de manière impeccable. Et puis après, ça se gâte, il n'en parle plus. Or, quand il interroge Pétain, il part du chef d'accusation, du crime de haute trahison. Il dit que Pétain, il a laissé la synarchie actionner la cagoule. Il lui dit pratiquement ce qu'il dit en avril 45 au grand juge collaborationniste Mornay, qui est quand même l'avocat général des procès de Vichy, des procès de la Cour de justice. Qui l'a choisi pour ça, de Gaulle? Qui se moque d'eux en même temps qu'il assure la non-épuration? Qui l'a mis à la tête de l'accusation contre les coupables de trahison nationale? Un grand avocat général à la retraite qui, en 1940, demande, comme beaucoup de magistrats, à sortir de la retraite pour pouvoir, d'une part, présider, il sera vice-président, la commission de dénaturalisation des juifs naturalisés français par la loi de 1927, et d'un, de Gaulle a laissé nommer comme avocat général des procès des ministres de Vichy un avocat général ayant dépassé l'âge de la retraite et qui a été assez carpette pour venir demander à être le premier à dénaturaliser les juifs naturalisé, français. Le même Mornay, à l'été 1940, candidate immédiatement pour juger les républicains, établir le procès contre la République qui va s'avérer être le procès de Rion. Il n'a pas pu. Mais est-ce que vous mesurez ce que signifie pour De Gaulle, qui avait déjà fait le coup à Alger, parce que tous ces tribunaux d'Alger étaient truffés de gens qui avaient servi Vichy jusqu'à l'arrivée des Américains, qui confie la justice de l'épuration, paraît-il rigoureuse, conforme à l'état de droit, à des suppôts du régime de Vichy. Eh bien, ça a été le cas du procès de Pétain. Alors, on a d'un côté le brave Béteille qui a envoyé à ce Mornay, en avril 1945, un admirable rapport catégorique dans lequel il résume ce qui aurait dû faire l'essentiel du dossier abandonné en juillet 1939 contre la cagoule, dans lequel il établit de fait que c'est Pétain, le chef de la cagoule, cette cagoule, elle a servi de bras armé à la synarchie. C'est pas la Fofolle Annie Lacroix-Risse qui l'a inventée. Ce sont les archives judiciaires, policières, parce qu'en plus on les a en double. À la préfecture de police, on a tout le dossier W3 des archives nationales qui est en double. Au cours du procès, Mornay, qui sait tout, qui est lui-même un condensé de l'ignominie de la magistrature comme avocat général et comme vice-président de la cour de dénaturalisation des Juifs, on voit Mornay qui dit « Oui, il a été question de poursuivre le maréchal Pétain pour trahison, pour complot, mais je ne trouve pas cette accusation fiable, je l'abandonne. » Pendant ce procès, qui a vu défiler toute la fine fleur de la trahison militaire de la France entre les années 20 et la débâcle de 1940, que dans ce procès, la malheureuse veuve de Jean Zay a été refusée comme témoin.
Assassiné par la milice française, Jean Zay a été le brillant ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts du Front Populaire. 4 émissions lui sont consacrées et en écoute sur notre site Polémix et lavoixoff.com. La veuve de Jean Zay se voit donc interdire de témoigner au procès Pétain. D'authentiques résistants en sont aussi écartés.
Quelques résistants réduits à la portion congrue, en particulier Tollet, qui est venu parler du rôle de la police. Et il y a eu un cœur de la magistrature, dont Mornay et le président de la cour, aussi vichiste que Mornay, pour dire comment la police qui a si largement participé à la libération de Paris, la préfecture de police impeccable, sortait Tollet. Et Madame Jean Zay est balayée d'un revers de main publiquement, son témoignage a été refusé, au motif, dit Mornay, qu'il serait tout à fait inconvenant d'essayer d'éveiller les passions dans ce procès. Donc, Madame Zay, dont le mari a été exécuté dans des conditions atroces par la milice, assassinat dont les responsables seront sauvés en toute connaissance de la France et avec sa complicité par le Vatican et par les Américains, c'est un dossier que je n'ai pas abordé dans le premier tome de la non-épuration, mais que je vais bien aborder un de ces jours, parce que le dossier de Jean Zay, il est à vomir. Je pense que ça a été un des facteurs qui ont conduit l'ancien avocat Boissary a démissionné de ce poste indigne qu'il avait occupé de 1945 à 1949. Il avait avalé des couleuvres ou des boas tellement gros que cet ancien avocat a craqué. Entre affaires économiques et les crimes couverts, Boissary est parti. Mais que simplement les auditeurs aillent se documenter sur le procès Pétain. Au lieu de lire des synthèses complaisantes sur le procès Pétain. Et là, ils comprennent le processus qui a été repris dans les années 90-2000 par les historiens de Sciences Po pour établir que, somme toute, Vichy avait été plein de gens qui, certes, avaient pu fauter, pas préparer la défaite, pas comploter contre la République. Ça, ce sont des problématiques absolument exclus, ce sont des problématiques obscènes, hein, qu'on impute à des dingos. Bon. Mais finalement, oui, ils ont pu avoir des errements, 41, 42, tout ça. Mais après, non, vraiment, officiellement, ils collaborent le jour et ils résistent la nuit. Et c'est Azéma qui a lancé ce thème de vichisto-résistant. Les étudiants ne sont pas des bonnets. Où ils veulent avoir un poste, réussir, etc. Et ils vont choisir la problématique qu'on fixe pour eux. Cette problématique peut être très honorable, elle peut ne pas l'être. Je demande que se présente le premier ou la première qui a trouvé des vichisto-résistants dans les archives entre 40, 44 ou 42, 44. Ça n'existe pas, c'est un terme qui a été forgé. D'ailleurs, une des étudiantes, une des premières, elle avait fait un article sur les vichisto-résistants, puis à un moment, elle est un peu gênée, et elle dit « Oui, il faut reconnaître qu'on ne trouve pas de documentation, mais l'idée y est. » il y a cette petite-là. Il y a l'historienne qui a joué, je dirais, en matière de réhabilitation de Pétain, un rôle majeur. Madame Vergès-Chaignon, depuis plus de 20 ans, a décidé que finalement Pétain c'était très bien. Elle fait d'ailleurs une biographie de Pétain qui lui a valu, je crois, le grand prix de peut-être de l'Académie française. Je rappelle quand même que l'Académie française a été truffée de préparateurs du complot contre la République et de la défaite, puis peuplée de vichistes. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi des gens de bonne foi tenaient tellement à s'y présenter. Quand je trouve que cette assemblée manque historiquement de justification à la fois scientifique et démocratique. Si peut-être d'ailleurs sur la langue, mais enfin je ne me prononcerai pas sur la qualité de la langue, ça n'est pas ici mon objet. Donc, elle aussi, elle fait un bouquin sur les vichistos résistants. C'est avant 2010. Alors là, c'est bien simple, c'est grotesque. Parce qu'il y a zéro archive de 40 à 44, il n'y en a pas. Mais alors on nous explique, mais si, avec de la deuxième main, c'est-à-dire des bouquins, eux-mêmes appuyés sur de la posteriori, et des déclarations a posteriori. Par exemple, le grand fasciste entre tous, le propriétaire des huiles de Sieur, Jacques le Maigre du Breuil, d'extraordinaires vichisto-résistants. J'ai expliqué dans les élites françaises de la collaboration avec l'Allemagne à l'Alliance américaine une chose très claire et naturellement démontrée. Comme j'ai toujours dit à mes élèves et à mes étudiants, je vous prie de ne pas me croire sur parole. Vous ne devez jamais croire quelqu'un sur parole. En histoire, en science, on ne pratique pas la confiance aveugle. Hein ? Vous allez vérifier. Vérifions. Il n'y a aucune source. Aucune. J'ai dit que la vichisto-résistance n'existait pas. Ce n'est pas des vichisto-résistants, c'est des vichisto-américains.
Dès l'échec du Blitzkrieg contre l'URSS de l'été 41, on comprend partout en haut lieu, y compris chez les Allemands, que ces derniers vont perdre la guerre et que le monde d'après sera sous domination états-unienne. Nombre de troubles personnages préparent alors leurs arrières pour la future Pax Americana. Certains se fabriquent des légendes de « résistants » et ont fait même semblant de déporter certains grands collabos en prévision d'en faire de futurs héros de la déportation lors de l'inéluctable libération. Cette déportation d'opérette, c'est la déportation d'honneur. Léon Blum et Léon Jouot y auront droit et en reviendront en bonne santé.
À partir de la perspective de la Pax Americana, chacun s'arrange, ouvertement plus ou moins tôt, ça peut aller jusqu'à l'été 44. Ça peut ne pas apparaître avant 43-44. Et 43-44, c'est notamment le début des déportations d'honneur, jusqu'au début de 44, avec ce qu'on appelle la déportation des inspecteurs des finances, parce qu'on a envoyé en hôtellerie de luxe une série d'inspecteurs des finances en août 43, banquiers, etc., qu'on a pu accueillir les larmes aux yeux à leur retour en mai 1945 en les traitant de grands patriotes. Parce que c'est ça la réalité de la vichisto-résistance. Ça n'a jamais été des résistants. Je donnerai un exemple. On a particulièrement mis les formes dans la débâcle de la France. Bien sûr qu'il y a beaucoup de soldats, de jeunes sous-offres, voire même quelques officiers, qui se sont battus avec ardeur en 40. Personne ne va contester les cadets au mur ou tel autre attestant la volonté de se battre. Mais au sommet prévaut ce que Marc Bloch raconte à propos du général Blanchard, qui fait semblant de pleurer sur la situation dramatique, et puis que Marc Bloch entend dire de derrière une porte « Je vois très bien une double capitulation » sur un ton tout à fait différent. Or, ce sont les mêmes qu'il faut badigeonner. Vous savez ce que c'est qu'un badigeon? Quand vous le rapportez aux sources, c'est quelque chose qui vous provoque une émotion quand même. Hein, enfin, on pourrait bien sûr donner plein d'exemples spectaculaires. On a badigeonné tout le haut clergé. l'archevêque de Paris, cardinal Suard, comploteur depuis les années 20 contre la République, à l'été 1944, rend hommage à ce si vénéré Philippe Henriot, qui vient d'être exécuté dans des conditions abominables. Bon, on est en juillet 1944. Bien entendu, il est immédiatement lavé. Ça a été le cas pour tous. J'ai évoqué la vichisto-résistance. Ce courant Sciences Po, généré par Azéma, a été renforcé, avec d'ailleurs un appui médiatique gigantesque. Et c'est ainsi qu'un auteur appelé Epstein, pas plus historien que moi spécialiste du bâtiment, décide un beau jour de 2008 de montrer que la gauche a été collabo et que c'est l'extrême droite qui a été résistante. Alors, il la sélectionne, sa gauche, hein, c'est-à-dire qu'il choisit de la gauche qui précisément a été achetée par le patronat. À partir du moment où le patronat se sert d'anciens hommes de gauche, les paie et leur fait retourner leur veste, excusez-moi, mais leur appartenance à la gauche est sérieusement obérée. Hein. Je quitte ma livrée de gauche sur corruption, parce qu'en général, quand même, ça pense. Je me fais embaucher par les patrons dans les années 20 ou dans les années 30. Hein. En général, quand on est embauché dans les années 40, c'est qu'on a été embauché avant. Hein. Et puis, je sers le patronat. Et Epstein, dans son bouquin « La gauche collabo », qu'est-ce qu'il nous montre ? Cette extrême droite cagoularde, mais plein de héros. Il a travaillé sur quoi, M. Epstein ? Exclusivement sur de la seconde main. Que ceux qui ont son bouquin en main viennent me dire qu'ils ont trouvé une source 40-44. Zéro. Voilà comment se fait l'histoire médiatique depuis quelques décennies. Oh, mais dites en cœur, Sciences Po depuis les années 50, le voilà le fascisme, le seul. D.A., Doriot, on nous colgèse, le professeur de droit, que François Mitterrand était allé élever autour de 1935, parce qu'il y a eu une campagne de l'Action française contre le professeur Gèze, républicain bien entendu, un conservateur. Pourquoi on le haïssait à l'Action française ? Gaston Gèze, très grand professeur de droit, les facs de droit sont un repère d'extrême droite, un repère de fascistes. Alors ne parlons pas des étudiants, sont tous Action française quasiment. Il y a quelques communistes et socialistes, mais alors ils peuvent se faire casser la tête à peu près à tous les moments dans les années 30. Gèze est mis en cause parce que Gèze est l'avocat du souverain d'Éthiopie. Il est Sélassié, petit pantin de l'Italie grâce à sa formation catholique et à l'influence qu'exerçait chez lui le Vatican, l'Éthiopie se fait attaquer par l'Italie, affaire préparée depuis le début des années 30 avec l'entière aide du Vatican, déclenchée en 35-36. Gèze, devant les cours internationales, défend Haïlé Sélassié. Et ça lui vaut un martyr à la fac de droit de Paris. Des manifestations tous les jours, l'impossibilité de s'exprimer, etc. Et qui s'illustre là, dont on a trouvé la photographie, dans une manifestation de 1935, le jeune Mitterrand, qui est bien un élément de sa classe, parce que, qu'on soit sérieux, hein, Mitterrand a été mis à la tête d'un parti classé à gauche, mais Mitterrand est un homme d'extrême droite.
J'étais un produit, comme beaucoup de Français, de mon milieu, de ma société, de mon éducation. Et d'ailleurs, je ne m'en repens pas, parce que c'était des gens estimables et bienveillants. Mais enfin, politiquement, leur analyse était loin de celle que, depuis de longues années, moi, j'ai. Je combats pour une idéologie qui n'est pas la même.
Mitterrand est un jeune homme de la bourgeoisie provinciale, Action française, un familier des plus grandes lames de la cagoule. C'est un copain des bénéficiaires des fonds secrets de Bernard Ménétrel et qui ont si activement contribué à la venue au jour du régime de Vichy. Donc l'histoire de Mitterrand, c'est pas l'histoire d'un homme de gauche qui aurait un peu fauté, puis collaborait le jour, mais faisait de la résistance la nuit. Mitterrand est un Action française fasciste, qui est l'ami de tout ce qui a donné du couteau et du revolver dans la période de la stratégie de la tension 36-37. Bien entendu, ce petit jeune homme est utilisé dans les services de Vichy, parce que, soyons sérieux, il se trouve que je fais partie des historiens qui ont regardé les dossiers de la Francisque.
La Francisque, décoration du régime de Vichy marquant l'estime de Pétain.
N'importe quel curieux peut aller les consulter aux Archives nationales à Pierrefitte. On remarquera d'ailleurs qu'on n'y trouve pas le dossier de Mitterrand qui, probablement, comme ministre de l'Intérieur, a fait un petit ménage. Ça sert à ça d'être nommé ministre de l'Intérieur. C'est de persécuter les autres et d'assurer quand même son petit époustage personnel. Or, la Francisque, c'est 2500 personnes. La Francisque, ça n'est pas cette espèce de petite médaille en chocolat, comme dit un des grands synarques et vichistes qui se fait gentiment interroger en 1946, du moulin de la Barthète. Oh, 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 ça nous faisait rire. Ah oui, ça les faisait rire. Mitterrand, il est récompensé en 43. Déjà en 43, faut vouloir. Parce qu'il y en a en 43 qui passent du côté Pax Americana ouvertement. On le voit d'ailleurs sur les fiches de la Francisque. Rayé de rouge, a trahi, est parti à Londres, à Alger, tout ça. Pas Mitterrand.
Comment expliquer l'amnésie générale sur le passé de Mitterrand à Vichy? Comment expliquer, alors qu'il n'était même pas socialiste, que Mitterrand prenne la tête du PS en 71? Comment expliquer qu'un homme d'extrême droite parvienne à se faire passer pour un socialiste?
Mais Mitterrand est un menteur comme énormément d'hommes politiques. Qu'est-ce que la droite et la gauche? Pourquoi est-ce que ça se brouille comme ça dans les périodes délicates? Tout d'un coup, des gens à gauche qui passent à l'extrême droite. Alors d'abord, il faut le savoir. Le passage brusque à l'extrême droite, ça n'existe pas. Le passage brusque à l'extrême gauche, c'est rare. Ou à la gauche, c'est quand même rare. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Mitterrand? Mitterrand s'est trouvé par ses contacts avec toute la clique de Deloncle, le chef de la cagoule, qui lui avait été exécuté début 44 par les Allemands. Il fricotait trop avec les Américains et le panier de crabes qu'étaient les Allemands était partagé entre ceux qui zigouillaient éventuellement parce qu'on négociait et ceux à des postes en général décisifs qui négociaient avec les Américains. Quand même qu'on se rappelle que Himmler préparait sa conversion américaine. Himmler, ne parlons pas de Göring. Donc, on est dans cette conjoncture où Deloncle, le chef de la cagoule, qui négociait avec les Américains, se fait zigouiller. Moi, j'ai apporté dans les élites françaises des éléments sur les négociations franco-américano-allemandes qui sont à tomber de sa chaise. L'évasion de Giraud.
Le général Giraud, collabo que les Américains ont choisi contre De Gaulle pour diriger la France libérée. Giraud, dont les Allemands ont facilité la soi-disant évasion, notamment pour gêner De Gaulle.
L'évasion de Giraud en 1942 est une évasion bidon qui est organisée pour donner aux Américains un chef, et tout ça avec la complicité des Allemands. Les chefs de la Gestapo, ils ricanaient doucement en expliquant que naturellement, cet homme de 63 ans, il avait fait 60 mètres de corde descendre de sa forteresse avec les petits tissus que lui avait envoyés sa femme dans un colis. Bon. La priorité, c'est de se retourner contre l'URSS. Donc, il faut imaginer ce que c'est que les négociations de 42-44. Alors là, pour le coup, on a besoin des sources impitoyables. Barbie qui négocie pour liquider Moulin, et mon Mitterrand qui est lié avec tout le milieu cagoulard. Puis les plus grands, Mitterrand, qui fait sa carrière, qui l'embauche, l'entretient, C'est Eugène Schuller, patron de L'Oréal.
C'est l'une des archives fétiches de cette émission, mais on ne s'en lasse pas. Déclaration de 1941 d'Eugène Schuller, fondateur de L'Oréal et père de Liliane Bettencourt.
Nous sommes en pleine révolution. Mais cette révolution n'est pas seulement nationale. C'est une révolution mondiale, universelle. Je dirais même que c'est la plus grande des révolutions humaines. Nous sommes dans une immense mutation. Un ordre de choses s'en va, un autre vient. En 1939, nous étions en guerre sans la faire, sans vouloir la faire, sans savoir la faire.
L'Oréal.
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 Parce que je le vaux bien.
Parce que je le vaux bien.
Parce que je le vaux bien.
Eugène Schuller.
Il est synarque, mais bien que déjà très riche, il n'est pas au niveau de la haute banque encore. Il a considérablement développé sa fortune sous l'occupation en faisant des affaires monstrueuses avec les Allemands, pas seulement pour vendre sa teinture de cheveux. Il possède toute une série d'usines de peinture, il arianise comme un furieux, etc. Il développe considérablement sa fortune. Il est un énorme financier de la cagoule qui s'est maintenu sous l'occupation. Ça s'appelait Czar, ça s'appelle émissaire, mouvement social révolutionnaire, alors que ça s'appelait comité secret d'action révolutionnaire. C'est toujours très bien, action révolutionnaire. Hein? Quand on est contre-révolutionnaire, ça fait plus sympa à partir du 19e et surtout du 20e de s'appeler révolutionnaire. Or, Schuller, il réembauche tous les cagoulards de sang, puis alors qu'il y avait un palmarès. Hein? Ils échappent à l'épuration, quelquefois ils font un peu de prison quand même, comme Corrèze, tout ça. Ils sortent de prison, Corrèze se fait immédiatement embaucher par son cher ami Schuller, qui est resté son cher ami pendant toute l'occupation. Et qu'est-ce qu'il en fait, Schuller? Il en fait le personnage le plus important de sa filiale américaine, de L'Oréal. Et d'une et de deux, qui est-ce qui fait la carrière de Mitterrand? L'embauche à notre beauté. Votre beauté. Quand j'étais petite, je voyais ça chez le coiffeur, votre beauté. Ben, c'est Schuller. Or, mon bon Mitterrand, qui a été un vichiste jusqu'au bout, qui n'a jamais été un résistant. Personne n'a pu apporter de preuves archivistiques de la résistance de Mitterrand, parce qu'il n'y en a pas. Et j'ai un excellent ami journaliste qui connaît le dossier comme sa poche, qui a été à deux doigts d'apporter à sa grande entreprise de presse la preuve qu'une fameuse réunion de 1943... avec Mitterrand, la réunion de la résistance à laquelle finalement il n'a pas pu assister, tout ça, il n'a jamais été question que Mitterrand y assiste. Parce que Péan, il a raconté des choses, mais Péan, paix à son âme, il a tout de même caché beaucoup de choses.
Pierre Péan, journaliste qui a rappelé le passé vichiste de Mitterrand, dans un livre dont la couverture est une photo du jeune Mitterrand décoré par Pétain.
Péan avait pour Mitterrand d'étranges complaisance. Mitterrand, c'est donc un homme d'extrême droite qui est financé par Schuller. Schuller, il comprend, il est comme tout le monde, hein. Tout le monde est assez intelligent, je dirais dans la gauche raisonnable ou dans la droite raisonnable ou pas raisonnable, pour comprendre que le danger, bien sûr, c'est le danger de la radicalisation et de la très forte influence qu'a prise le Parti communiste à la faveur de la résistance. C'est Schuller qui finance des mouvements à gauche que chacun reste assis sur sa chaise. L'extrême droite patronale est capable de financer la gauche. Ben tiens, si ça l'arrange, du moment qu'elle est anticommuniste. Et c'est comme ça que Schuller finance, comme d'autres grands patrons, l'Union démocratique et socialiste de la résistance, qui est aussi démocratique et socialiste que je suis spécialiste de la flûte. Alors, il est de gauche. Ça veut dire quoi, il est de gauche? À partir du moment où Schuller non seulement finance la droite et l'extrême droite, alors il faut savoir qui est Schuller. Hein. Si les auditeurs sont curieux, hein, ils iront tapoter sur mon site, tout ça, ils verront. J'ai failli contribuer à une émission, de grande émission de télévision sur Schuller, mais finalement, ça ne s'est pas fait parce que le charmant journaliste qui m'avait beaucoup sollicité et que j'avais accompagné par la main à la préfecture de police et à qui j'avais montré tous les fonds que je connaissais, m'a finalement téléphoné en me disant « Oh, Madame Lacroix, écoutez, je suis désolée. Finalement, nous n'avons pas parlé de Schuller, nous allons parler de Liliane Bettencourt. » Ah, ouf ! Mais c'est Schuller qui finance Mitterrand pour aller investir la gauche anticommuniste. Ça veut dire que Mitterrand aurait changé, mais non. Pour maintenir le statu quo, n'importe qui peut faire alliance avec n'importe qui. Pour le grand patronat, droite, extrême droite, gauche, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de faire fonctionner le mécanisme du profit comme ça va. Hein ? Si un grand patron a besoin à un moment d'extrême gauche, il a eu besoin. Il y a des stipendiés de la presse d'extrême droite qui ont découvert un jour qu'était stipendiée une presse d'extrême gauche parce qu'elle n'arrêtait pas de brailler contre le pacte franco-soviétique en dénonçant la militarisation des bolcheviks et que c'était honteux. Mais qui a vu les archives peut ne pas s'étonner que les antipacifistes de la Première Guerre mondiale soient devenus les pacifistes des années 30. Mais parce qu'on ne fait pas d'histoire sans long terme. En 1914-1918, la droite socialiste, elle défend la guerre impérialiste. Dans les années 30, pourquoi elle défend le pacifisme ? Parce que le patronat a besoin du pacifisme pour détruire les alliances de la France et en particulier l'alliance franco-russe. Parce que l'alliance franco-russe est une protection du territoire français en cas d'invasion. Je sais bien que certains des auditeurs vont se dire « mais elle est folle celle-là ». Mais non, quand on a un peu de temps pour soi et qu'on a le temps de faire des décennies de recherches en archives, on part du début, quelquefois en sens inverse parce que on est gêné par la petite ouverture des archives qui fait que on a d'abord les archives d'après 44 qui sont ouvertes, puis après on a les archives de la Deuxième Guerre mondiale, puis après on a les archives des années 30. Ben c'est pas grave, après on restitue la chronologie, qu'est-ce qu'on voit ? La grande bourgeoisie, elle finance qui l'arrange. Et pourquoi vous voulez pas corrompre celui qui est utile ? Donc, l'histoire de Mitterrand, c'est l'histoire d'un homme d'extrême droite qui passe à la gauche, je dirais, en même temps que son financier. Ça n'est pas original. On en a des cas par caisson. Et comme le Parti socialiste est un parti qui ne s'est jamais remis du congrès de Tours, qui est investi par le patronat. C'est comme ça, je ne dis pas ça à titre polémique, je dis ça parce que j'ai vu ses archives et que j'ai lu les archives policières, sans parler des archives patronales. Léon Blum détestait-il la finance ? J'ai vu les relations courtoises entre Léon Blum et le très grand patronat qui, officiellement et dans sa presse, vomissait le juif Léon Blum, mais entretenait avec lui d'excellentes relations. Enfin, c'est un peu du même ordre que le ministre d'un président récent, le candidat président dit « je hais la finance ».
Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance.
C'est ça qu'il fait lire, hein ? Juste au moment où il est élu, le ministre est délégué, s'en va voir les patrons et leur dit « écoutez, il n'y a pas de souci, c'était un discours à vocation électorale ». Je l'ai su par quelqu'un qui fréquente les gens très bien et qui me l'a raconté parce qu'il a assisté à une de ces révélations. Voilà comment ça se passe. Et c'est comme ça qu'un homme de droite qui a gardé toutes ses amitiés à droite, avec des gens qui étaient passés de la gauche théorique à la droite pratique, comme Bousquet.
Bousquet, secrétaire général de la police de Vichy, l'un des responsables de la rafle du Veldiv de 42, entre autres, copain de Mitterrand.
Bousquet redevient libre citoyen, très introduit dans les milieux politiques et dans les milieux financiers, banques, dès les années 50 et dans les milieux de presse. Et il est considéré comme un ami par plusieurs chefs de gouvernement, qui sont de l'être républicain. Et jusqu'en 1978, aucune question ne sera posée. Je vous répète qu'en 1957, le Conseil d'État lui restitue sa Légion d'honneur. Mmh. Et je l'ai rencontré certainement avec d'autres personnes. Je n'ai pas fait le compte, mais enfin au moins 10 ou 12 fois.
Bousquet était un préfet radical. Mais c'était un préfet anti-prolétarien et anti-communiste. Et ben voilà, il adorait Bousquet du temps de l'occupation. Il a adoré Bousquet après l'occupation. Mitterrand n'a jamais abdiqué ses relations avec Bousquet et a toujours refusé de reconnaître notamment le rôle de Vichy dans la déportation des Juifs.
On va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy.
Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. C'est-à-dire que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France.
Pour clore sur le procès Pétain, si de haute trahison, le chef d'inculpation est passé à simple collaboration. Était-ce pour couvrir les grands personnages qui tiraient les ficelles de la marionnette du maréchal ? Reconnaître la trahison de Pétain, revenait-il à ouvrir la boîte de Pandore de la haute trahison d'une partie de la grande bourgeoisie industrielle et bancaire française ?
C'est la clé qu'exprime très bien Paul Baudouin, grand banquier, une des têtes de la synarchie et très grand traître, dont le dossier d'instruction est énorme et monstrueux, qui n'a pourtant pas fait beaucoup de temps à Vichy, comme ministre, hein, à sa démission de janvier 1941 de secrétaire général du gouvernement des affaires étrangères. Lui, c'est un Pax Americana de la première heure. Hein. Il abandonne donc sa fonction de ministre des affaires étrangères, mais il a accumulé depuis la guerre un dossier, quand je dis monstrueux, mais monstrueux. Tout son dossier d'instruction, c'est le dossier de la trahison d'avant-guerre. Et qu'est-ce qu'il dit Baudouin ? Quand il se fait barboter en mars 1946, tout près de la frontière espagnole, alors qu'il s'apprête à aller prendre un avion pour rejoindre les États-Unis. Il se fait arrêter, bien entendu traité avec les égards qui lui sont dus. Il se fait interroger par des policiers particulièrement respectueux. En avril 1946, il a cette phrase extraordinaire « Ah, mais vous pouvez faire n'importe quoi. La décision décisive a déjà été prise. Le motif de complot a été abandonné de la procédure relative au maréchal Pétain. Il est impossible de me poursuivre de ce chef. » Mais en effet, alors que Pétain a été le premier des conjurés puisqu'il était le chef de la cagoule qui elle-même obéissait au doigt et à l'œil à la synarchie qui paraît-il n'existe pas, il était inenvisageable de sacrifier à ce qui était le crime puni de la peine de mort, dépossession, confiscation des biens, etc. Étant donné la perspective de rétablissement des élites, il était inenvisageable de faire ça. Le statu quo français est un statu quo absolument général dans la zone d'influence américaine. Il faut le dire, parce qu'on a dit tellement d'âneries sur la RDA. La dernière, c'est qu'il paraît que la RDA, elle a gardé plein de nazis, elle était antisémite et tout ça, voilà. Hein, parce que les antisémites, c'est les Allemands de l'Est. Ah, ben non, pas du tout. Là où il y a eu les armées soviétiques, il y a une dimension de classe. Il y a eu des transformations très profondes. Là où il y a eu transformation sociale, il y a eu bien sûr des procès, les seuls procès d'épuration, des procès précis, c'est les procès de zone soviétique, en 45, en 46, dans les années suivantes. Par exemple, pour l'Église, les pays socialistes attendent quelques années, c'est-à-dire le moment où le Vatican leur rend la vie tellement impossible qu'il faut sortir les dossiers. Faire la vérité. Marc Bloch, en particulier dans un article clandestin, bien sûr, publié en 1946 avec l'étrange défaite. D'une part, l'article de novembre 1943, la saison des justes juges. D'autre part, l'article qu'il rédige en mars 1944, où il analyse la préface de Pétain à l'ouvrage du général Sauvineau prônant la défensive en 1938, avec préface de Pétain, le très prudent qui en général se dissimulait plus que ça, et qui est un éloge vibrant de la tactique de la défensive, dans lequel Marc Bloch voit une des preuves de la trahison militaire formelle de Pétain. Qu'est-ce qu'il dit Bloch dans cet article? Le temps n'est pas si éloigné où nous expliquerons ce qui s'est passé dans l'œuvre de la trahison de la France, car il est impossible que puissent coexister en France les assassins de Chateaubriand et les familles des morts de Chateaubriand. On ne fera pas vivre ensemble en France les collaborateurs, les traîtres et leurs victimes. Eh bien, il s'est trompé. Le statu quo, à partir du moment, bien sûr, où les Américains étaient là, les classes dirigeantes qui le voulaient, ce statu quo, avaient les moyens de le réaliser. Naturellement, rien ne changeait. Mais comme les États-Unis ont longtemps pensé, jusqu'en 1944, que l'Union soviétique n'aurait pas de zone d'influence, qu'elle était trop faible, trop anéantie par la guerre pour avoir la force d'imposer une sphère d'influence, ils étaient persuadés qu'ils auraient le monde entier ou l'Europe entière. À partir de 1943, Hollenderlos,
ponte des services secrets américains,
a lancé toute une série d'agents à l'assaut des pays d'Europe orientale. Ils rencontraient ces délégués des représentants des classes dirigeantes. Elles tremblaient comme des feuilles, les classes dirigeantes. S'il y avait des troupes soviétiques dans le pays, toutes les richesses acquises, tous les crimes commis seraient payés. Bien entendu, on en a ratiboisé dans les émois de 1945 quelques-uns, mais la plupart, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont fui vers l'Ouest. Finalement, tout est toujours une question d'histoire économique et sociale. Tous les types d'archives croisées l'établissent formellement. Zone américaine, tout reste en place. Le statu quo du deuxième après-guerre était exactement le statu quo du premier après-guerre. Et alors, comme il ne s'était pas passé très longtemps entre les deux guerres, on avait les mêmes. On avait utilisé les mêmes hommes politiques, on avait utilisé les mêmes syndicalistes. Bah, tu as par exemple Jouot, il jouait le même rôle après la Deuxième Guerre mondiale qu'après la Première. C'est-à-dire que quand on fait de l'histoire sérieusement, on n'a pas besoin de polémiquer et de s'exciter beaucoup. Hein. On ne fait pas beaucoup d'idéologie finalement quand on fait de l'histoire sérieusement. On fait de l'histoire de classe, l'histoire des rapports sociaux. Elle est au cœur de ce que j'appelle une pratique scientifique radicale. Ça consiste, comme Marx l'avait recommandé pour la philosophie, à aller chercher les choses par la racine. Un historien qui fait son travail est, comme l'a dit mon grand maître Pierre Villard, un historien qui fait le maximum pour aboutir à une histoire totale, qui va chercher tout ce qui, dans l'histoire intérieure, dans l'histoire économique, dans l'histoire sociale, dans l'histoire des relations internationales, peut aider à expliquer, à rendre compte des faits et à interpréter honnêtement les faits. Si les questions n'étaient pas des questions de classe, la pratique d'historien dans mon genre ne ferait bondir personne. Elle n'a rien de particulièrement provocateur. Elle se contente de croiser des sources qui sont convergentes. Dans la conjoncture actuelle, un historien dans mon genre, en France, se restreint à un public qui ne sera jamais le public de la grande presse, écrite ou audiovisuelle.
C'est ici que se termine ce stupéfiant entretien avec Annie Lacroix-Risse, qu'on remercie, et que tu peux réécouter sur notre site polémiquesetlavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve au prochain épisode sur cette même antenne pour évoquer le parcours du combattant des communistes pour imposer les grandes conquêtes sociales de l'après-guerre. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G.